Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Cette semaine, Matière à penser s'intéresse aux apprentissages et troubles du cerveau, et tout particulièrement à la psychiatrie. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marion Leboyer et Pierre-Michel Lorca, auteurs de Psychiatrie, état d'urgence, publié chez Fayard. Bonsoir.
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 Voilà, vous avez sorti tous les deux, avec des interviews de différentes personnes, personnalités du monde psychiatrique, on va dire, et puis aussi de patients. Vous avez sorti ce livre à un moment un peu crucial, puisqu'il y a eu des mouvements importants dans le monde de la psychiatrie montrant que on n'y était pas. On n'était pas du tout à la hauteur des besoins, avec des manifestations en janvier, et puis différentes propositions que vous faites à la fin du livre. Il y a 25 propositions qui méritent effectivement une réflexion. En tous les cas, déjà, cet état des lieux est assez pertinent, on va dire. Tout de suite, je dis que ne soyez pas rebutés par le mot psychiatrie. Et il est très clair, ce livre. Il permet vraiment d'y voir clair dans les différents modes d'exercice de la psychiatrie, mais aussi la situation du statut. Et puis surtout, et c'est ça qui nous intéresse en premier chef, c'est les évolutions des maladies psychiatriques, l'évolution en termes de possibilités de traitement, que je trouve absolument passionnant. Et vous êtes l'un et l'autre à la manœuvre, on va dire, pour un certain nombre de développements. Alors, laissez-moi un peu vous présenter rapidement, bien sûr, parce que si on faisait toutes les vraies présentations, on en aurait déjà pour les 45 minutes. Parce que Marion Leboyer, vous êtes professeur de psychiatrie à l'Université Paris-Est de Créteil. Vous êtes directeur de la Fondation Fondamentale, dont on va parler un petit peu pour nos auditeurs. Vous êtes directeur aussi d'une unité INSERM. Vous avez été 3 ans, je crois, à l'Institut de psychiatrie de Pittsburgh. Et vous avez cumulé un certain nombre de prix en rapport avec vos 441 publications scientifiques, votre centaine de communications et autres travaux notables. Pierre-Michel Lorca, donc vous nous faites le plaisir de venir de Clermont-Ferrand, vous êtes responsable d'un service, vous avez vous aussi publié un certain nombre d'articles qui atteignent les 300 à peu près, et vous avez publié déjà quelques livres, La schizophrénie, savoir pour guérir, chez Ellie, qui va sortir en 2019, et vous aviez publié sur les troubles bipolaires aussi un livre qui permettait un peu d'y voir clair. Dans ce livre, donc Psychiatrie, l'état d'urgence, publié chez Fayard, vous êtes appuyé sur plusieurs fondations, enfin la Fondation Fondamentale, puis l'Institut Montaigne, et vous avez une introduction de Nicolas Baverez, qui est un politologue, un écrivain, enfin quelqu'un qui réfléchit, et qui apporte d'emblée le thème que voilà, n'ayez pas peur de la psychiatrie comme on n'a pas eu peur, comme certains n'ont pas eu peur du cancer ou n'ont pas eu peur du sida. C'est-à-dire que le premier mouvement, c'est un mouvement de recul. Et en fait, il faut le prendre à bras le corps et essayer d'avancer comme on a avancé, avec peut-être des moyens que l'on a besoin ici, mais comme on a avancé pour le cancer et le cerveau. Donc, beaucoup de découvertes qui devraient aboutir à des traitements sur mesure. Et c'est absolument passionnant de discuter avec vous, aussi bien de la vraie dépression, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du spectre de l'autisme, des conduites suicidaires, enfin voilà, ce qui fait votre pain quotidien médical. Et tout de suite, je voudrais insister sur une nouvelle approche de toutes ces affections, qui sont le dérèglement du système immunitaire et les troubles psychiatriques. Quelque chose que l'on ne connaissait pas, personnellement, je ne connaissais pas, je crois que c'est assez récent. Et d'ailleurs, vous avez été, congratulé pour cette approche, par là aussi l'obtention d'un prix. Et vous êtes plusieurs à insister sur ce thème. Possibilité du rôle des molécules inflammatoires, peut-être la grippe, la toxoplasmose in utero pourrait aboutir à des modifications des circuits du cerveau, la flore intestinale aussi qui peut présenter des anomalies et qui entraîne un certain nombre, le microbiote intestinal comme vous le savez, qui stimule le système immunitaire et une barrière contre l'infection. Et donc, il y a des projets de transplantation de microbiote fécal chez l'animal avant de passer peut-être chez l'homme. Et puis, des origines génétiques qui sont en recherche. Et je me tourne vers vous, Marion Le Boyer, puisque c'est un de vos domaines, je ne dis pas tous les domaines, mais un de vos domaines de prédilection. Essayez de voir, est-ce qu'il y a des gènes de vulnérabilité en dehors des risques environnementaux dans l'ensemble de ces maladies, hein. Je vais vous demander la génétique d'un côté, l'environnement de l'autre. Allez-y, s'il vous plaît.
Alors pour rebondir sur les hypothèses actuelles sur les dysfonctionnements immunitaires dans les maladies mentales, c'est vrai que c'est un domaine plein d'espoir à l'heure actuelle pour nos patients, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça permet de rendre accessible ce qu'on cherche depuis longtemps, qui sont la découverte de biomarqueurs périphériques, qui permettent d'identifier les patients qui sont concernés. Deuxièmement, parce que ça permet de mieux comprendre les maladies. Et troisièmement, parce que ça permet de développer toute une série d'innovations dans le domaine des traitements. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? On sait que, très probablement, les patients sont porteurs de facteurs génétiques, de facteurs immunogénétiques, qui expliquent qu'ils ne se défendent pas bien face à certains facteurs environnementaux, comme la grippe, comme la toxoplasmose, mais aussi contre le stress, par exemple. Et donc, l'interaction entre ce terrain immunogénétique et ces facteurs environnementaux va déclencher très tôt pendant la vie l'apparition d'une inflammation de bas niveau, qui va se poursuivre pendant toute l'existence et qui va avoir des conséquences progressivement à différents niveaux, qui sont bien sûr au niveau central, au niveau du cerveau, au niveau périphérique et, comme vous venez de le dire, au niveau digestif.
Donc cette approche immunologique que l'on retrouve dans d'autres spécialités, c'est vraiment l'avènement, un renouveau de l'immunologie qui était aussi un peu difficile à comprendre, hein, il faut bien le dire, là qui émerge. Je parle en particulier du traitement sur le cancer qu'on a vu dans cette émission il y a deux trois semaines. Et là donc dans les maladies psychiatriques, c'est quand même une approche très très récente. Et il y a des travaux qui sont en cours, je suppose.
Alors il y a énormément de travaux qui sont en cours pour d'une part mieux caractériser les patients qui sont concernés, pour identifier les conséquences de cette inflammation. Par exemple, nous avons été parmi les premiers avec l'équipe de Laurent Grock à Bordeaux à identifier des auto-anticorps qui sont dirigés contre des récepteurs du cerveau, en particulier dans le cas des récepteurs glutamatergiques.
Dans quelle affection ?
Alors, on le trouve chez à peu près 20% des patients schizophrènes et bipolaires, avec des conséquences bien sûr cliniques, mais aussi biologiques et aussi probablement thérapeutiques, qui vont permettre que très rapidement, on puisse mieux et plus rapidement identifier ces patients et donc, bien sûr, les soigner. Mais il y a aussi des conséquences sur le plan de la flore intestinale, vous en avez parlé, avec des dysbioses qu'on commence tout doucement à caractériser de façon précise, avec là aussi des espoirs thérapeutiques.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a un profil génétique qui pourrait être identifié et caractériser cette, on l'appelle vulnérabilité, à défaut de dire c'est un gène qui est perturbé, qui est responsable par exemple de la mucoviscidose, une autre maladie bien identifiée. Là, on est dans plutôt un terrain génétique favorable.
Alors pour la majorité des maladies psychiatriques, on est effectivement dans une notion de terrain parce qu'il y a toute une série de facteurs de vulnérabilité génétique, mais chacun de ces facteurs joue un rôle mineur. Donc on parle de pathologie polygénique qui caractérise ce qu'on appelle le terrain.
Oui, c'est pas un seul gène égale une maladie, ce serait trop simple. Il y en a, mais là on est plutôt dans une association et justement un profil, quoi.
On est dans les maladies à hérédité complexe au même titre que dans l'hypertension ou dans le diabète. On a un ensemble de gènes qui vont rendre les individus susceptibles à un certain nombre de facteurs environnementaux.
Alors, je me tourne vers Pierre-Michel Lorca, qui est donc co-auteur du livre Psychiatrie, l'état d'urgence, publié chez Fayard tout récemment, et que je vous conseille. Et on va aborder, puisqu'il faut bien aborder quelques exemples concrets, j'aimerais que vous nous parliez un peu de la schizophrénie, qui touche 1% de la population. D'abord, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, où est-ce qu'on est en train d'évoluer dans ce domaine?
Alors, la schizophrénie, c'est une maladie, alors qu'on connaît, donc qui a été nommée de cette façon-là que depuis le début du XXe siècle, mais qu'on connaît depuis longtemps. Et la caractéristique la plus évidente quand on parle de schizophrénie, techniquement, pour les médecins, c'est une pathologie qui se caractérise par, d'un côté, des phénomènes délirants, des idées qui sont pas adaptées à la réalité, qui peuvent être des formes, par exemple, d'hallucinations. On entend des voix. D'un côté, puis de l'autre côté, une altération des capacités d'un côté d'interaction sociale et aussi d'organisation de la pensée. Donc on a une pathologie qui se manifeste de façon assez variable, c'est-à-dire soit avec une prédominance d'hallucinations et d'idées délirantes, soit avec des difficultés à s'adapter à l'environnement. Et c'est donc une pathologie très invalidante et qui malheureusement, là j'évoquais la description dans la milieu médical, mais pour la population générale, la schizophrénie en règle générale, c'est une maladie qui est associée à de nombreuses idées reçues. Alors souvent on pense que c'est une maladie de la personnalité divisée, c'est faux. Il y a des maladies, des personnalités, des troubles de personnalité multiples qui sont très peu fréquents. Il y a souvent une confusion très importante dans l'imagerie, qu'elle soit romanesque, cinématographique, de ce qu'est la schizophrénie. Donc dans l'imagerie mentale.
Et celui
de...
qui se prend pour Napoléon et autres.
Et ça, c'est des idées délirantes, mais c'est vraiment avec l'idée de cette personnalité dédoublée. Ça n'existe pas en tant que tel. Et puis surtout, malheureusement, la schizophrénie fait face à une stigmatisation importante autour de l'idée de dangerosité. Et ça, c'est vraiment une idée contre laquelle on essaie de contribuer à se battre avec aussi les patients, les associations de patients et de familles, parce qu'en fait, la schizophrénie, ce n'est pas une maladie dangereuse, à part dans des cas extrêmement rares, qui malheureusement conduisent parfois à des situations absolument tragiques et dramatiques, mais qui sont très rares, alors que la schizophrénie, c'est plutôt une maladie qui entraîne une vulnérabilité, qui rend les gens vulnérables aux agressions extérieures, notamment de la société. Donc, une maladie, 1% de la population, comme vous le disiez, relativement fréquente, assez invalidante, et qui évolue généralement, qui débute au jeune âge adulte, on va dire fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, donc avec quand même un potentiel d'évolution et de handicap important. Et comme il a été évoqué par Marion, il y a également des hypothèses, par exemple, sur cette interaction gène-environnement. Et on a mené une étude qui était dans le cadre d'une étude européenne, donc à la fois à Créteil, où travaille Marion, donc un endroit fortement peuplé, et à la fois dans une partie rattachée à Clermont-Ferrand, enfin proche de Clermont-Ferrand, qui est plus semi-rurale et donc moins peuplée, où on a pu mettre en évidence, dans le cadre de cette étude, qui était une étude européenne, que le fait d'habiter dans un milieu rural, avec moins de stress urbain, diminue la survenue de ces troubles psychotiques. Et probablement qu'on est face véritablement à l'identification de ces facteurs d'environnement qui, quand ils rentrent en synergie avec les caractéristiques, notamment génétiques des sujets, qui étaient évoqués tout à l'heure, favorisent l'apparition du trouble. Donc la schizophrénie, c'est une maladie pour laquelle des stress, comme par exemple le fait de vivre en milieu urbain, comme par exemple la migration, comme par exemple la confrontation aux substances toxiques, favorisent et peuvent émerger chez des gens qui ont une potentialité qui ne serait pas révélée par ailleurs. Et donc un des grands enjeux pour nous, ce qui a été évoqué tout à l'heure aujourd'hui, c'est de pouvoir identifier des marqueurs particuliers qui font que, bien évidemment, tous les gens qui n'habitent en ville, bien évidemment, tous les gens qui sont issus de la migration n'ont pas, ne développe pas une maladie, mais qui parmi eux sont à risque, de manière à pouvoir avoir des actions de plus en plus précoces.
Votre rêve, c'est d'avoir un marqueur biologique qui permettrait de définir le risque?
En tout cas, ça modifierait bien sûr considérablement les stratégies qu'on met en œuvre, parce que si on pouvait définir ce risque, forcément, on pourrait favoriser le développement de mesures de protection, par exemple. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de traiter tout le monde, c'est toujours le fantasme de dire on va donner des médicaments à tout le monde, c'est pas du tout le cas. Mais par exemple, le développement de stratégies de gestion du stress par des techniques psychothérapiques pourrait prévenir l'apparition de ces troubles chez des gens qui sont vulnérables. Donc on voit bien qu'il s'agit vraiment d'essayer de caractériser cette vulnérabilité. Et comme vous l'évoquiez, vous faisiez l'analogie avec le cancer, c'est une bonne analogie parce que l'immunothérapie dans le cancer, ça ne concerne pas tous les cancers, ça concerne une partie des cancers, et ça permet de cibler précisément les choses. Et nous, on est un peu en déficit à l'heure actuelle de cette possibilité de cibler, que ce soit avec l'immunologie, que ce soit avec d'autres moyens, de cibler les différents profils des patients, à la fois pour mieux les comprendre et à la fois pour mieux les traiter.
Alors c'est vrai que la schizophrénie, c'est un peu l'image de la maladie mentale qui fait peur. Et dans votre livre, l'un et l'autre, vous insistez beaucoup sur la déstigmatisation de toutes ces maladies psychiatriques et de votre volonté affirmée est de considérer que la maladie psychiatrique, quelle qu'elle soit, on parle également de la schizophrénie, est une maladie comme une autre et qu'il faut justement l'aborder avec une épidémiologie, un diagnostic précoce et un traitement personnalisé. Enfin, c'est l'objectif. Et non pas avec un enfermement, un éloignement et surtout ne pas participer à cette transformation de l'individu malade du cerveau, on va dire, pour parler général, dont on cherche à comprendre le substrat. Marion Le Boyer.
Aujourd'hui, effectivement, on en est à l'époque où on a besoin de développer ce qu'on appelle la médecine de précision en psychiatrie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut identifier des sous-groupes homogènes de patients qui vont être expliqués par des causes précises et pour lesquelles on va proposer des thérapeutiques précises. L'autre élément qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut absolument être extrêmement précoce dans les stratégies, la mise en place de stratégies diagnostiques, parce que plus tôt est fait le diagnostic, meilleur est le pronostic. Donc il y a à la fois l'idée de cette médecine de précision qui fait appel à toute une série d'outils qui sont biologiques, qui sont l'imagerie, qui sont des données psychologiques et qui permettent de mieux spécifier les sous-groupes de patients, parce qu'on est dans des pathologies qui sont très hétérogènes, et avec cette idée qu'il faut vraiment intervenir extrêmement tôt. Donc dans ce contexte-là, l'information, la déstigmatisation est extrêmement importante pour que les personnes qui ne vont pas bien puissent aller consulter extrêmement vite.
Et alors dans le livre Psychiatrie et état d'urgence, vous détaillez le retard justement au diagnostic de ces différentes pathologies, retard constaté, chiffré en années, et avec après les difficultés bien sûr d'une meilleure prise en charge, voire d'une prévention.
Comme toutes les pathologies en médecine et donc en psychiatrie, plus on traite tôt, meilleur est le pronostic. Et effectivement, le retard en psychiatrie, il est lié à deux choses. Bien sûr, le retard d'identification, parce que souvent des pathologies assez complexes, je veux dire avec la différence, la frontière entre le normal et pathologique, parfois difficile à identifier. On parle de la dépression.
Voilà.
Quoi de plus la confusion entre, d'un côté, être triste, tout le monde a ressenti une émotion de tristesse, et la dépression, qui est une tristesse intense, non modulable. Quand on est triste, on peut être réconforté par notre environnement, par des circonstances de la vie. La dépression, c'est un moment où on n'est plus capable de moduler nos émotions. C'est vraiment un processus pathologique et forcément, c'est difficile à identifier. Donc ça, c'est un problème. Et puis, de notre côté, l'autre problème d'identification, il est que les gens ont honte. La dépression, de la même manière, peut être considérée comme une sorte de maladie de la volonté. Je n'y arrive pas, je ne suis pas capable, avec une sorte de regard très péjoratif. Donc les gens n'osent pas en parler. Donc, il ne s'agit pas de diagnostiquer tout le monde comme étant dépressif. Il s'agit véritablement de permettre que les gens qui sont malades et qui ont besoin de soins puissent à la fois s'exprimer sans honte, ce qui n'est pas facile. Il faut changer la représentation. Et de l'autre côté, être identifié par des médecins qui appréhendent la complexité de ce diagnostic.
Alors, justement, dans l'histoire du diagnostic de la vraie dépression, celle que vous venez de décrire, Pierre-Michel Lorca, est-ce que la recherche biologique avance? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des facteurs, en particulier on a beaucoup parlé de la sérotonine, et que les modifications de la sérotonine pourraient être, enfin on pourrait retrouver un substrat, je dirais, à ce type de dépression? Ou bien, d'autre part, est-ce que des nouveaux produits, là on a parlé récemment de la kétamine, qui pourrait, je dirais, améliorer en tout cas les tendances suicidaires, puisque dans toutes ces maladies que nous évoquons ensemble, tous les trois, il y a une espèce d'épée de Damoclès qui est le suicide, avec énormément de suicides, il faut bien le dire, puisqu'il y en a 10 000 à peu près par an, c'est-à-dire plus que les accidents de la route, et puis qu'il y a beaucoup plus de tentatives de suicide. Bon, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des avancées sur le substrat biologique ou les traitements biologiques que l'on peut proposer une fois qu'on a fait ce diagnostic?
Alors, ça reste difficile parce que dans les différents éléments, il y a les aspects biologiques, les marqueurs. Donc, on recherche bien sûr des marqueurs spécifiques, par exemple, d'inflammation qui peuvent être associés. Il y a des aspects d'imagerie, mais on est encore dans les stratégies de recherche et la distinction entre... Il y a des caractéristiques, mais qui restent insuffisamment spécifiques. Et bien évidemment, on reste encore à l'heure actuelle sur différents marqueurs, dont plutôt la conjonction permettront véritablement de caractériser la dépression. Donc, c'est des pistes de recherche, mais aujourd'hui, qui sont pas opérationnel pour l'identification. Ça, c'est un des problèmes. Après, dans les aspects thérapeutiques, comme vous le soulignez, on est resté longtemps sur des molécules qui ont été très efficaces, les antidépresseurs qui ont été découverts dans les années 50, puis avec les nouveaux antidépresseurs qui sont arrivés à la fin des années 80, début des années 90, sont des molécules qui sont efficaces chez beaucoup de patients déprimés. Mais la difficulté, c'est qu'on a un certain nombre de patients qui ne répondent pas, et que ce sont des molécules qui agissent toutes à peu près de la même manière, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, la quête que vous évoquez, qui est un médicament connu dans le domaine de l'anesthésie depuis longtemps, montre des caractéristiques, alors à des doses très inférieures à celles de l'anesthésie, mais c'est vrai que ça fait un certain nombre d'années qu'on a des rapports de cas, c'est-à-dire quelques chercheurs qui ont mis en évidence sur quelques patients, mais il y a maintenant des études qui mettent en évidence justement l'impact de cette molécule, avec deux caractéristiques principales, c'est l'action rapide, premièrement, et deuxièmement, l'action, comme vous le soulignez, sur quelque chose qui est tout à fait remarquable, sur les idées suicidaires. Et ça, c'est vraiment un changement important. Donc, bien sûr, il y a des études en cours pour valider cet effet-là. Et puis, il y a aussi un élément qui modifie la représentation, c'est que c'est pas une molécule qui agit comme les autres molécules qu'on avait jusqu'à présent. Elle agit sur le système, notamment sur le système glutamatergique et aussi sur l'aspect inflammatoire. Marion pourrait en dire plus que moi là-dessus. Et ce sont vraiment une idée que on a peut-être à l'heure actuelle, premièrement, une stratégie thérapeutique qui n'a pas du tout le même impact que les précédentes et deuxièmement, une compréhension un petit peu différente de ce qu'est la dépression. Donc on est une aube assez intéressante de l'évolution de ces stratégies.
Alors vous parliez tout à l'heure de l'imagerie, et je me tourne vers vous Marion Le Boyer, puisque je crois que vous avez beaucoup travaillé sur l'imagerie de l'IRM, en particulier dans les spectres de l'autisme. Alors on a effectivement pu voir dans certaines situations des diminutions de l'épaisseur du cortex, d'une partie du cortex, ce qu'on appelle singulaire. Je renvoie à quelques lectures d'anatomie du cerveau, mais qui seraient donc un peu modifiées dans ce genre de situation, ou certaines.
Alors dans l'autisme, en termes d'imagerie, ce qu'on vient de démontrer il n'y a pas très longtemps, c'est des anomalies des faisceaux de connectivité entre différentes régions du cerveau, ce qui serait probablement à l'origine des difficultés sur le plan des fonctions exécutives ou certaines très grandes compétences qu'ont ces personnes. Donc on est à l'aube de l'identification de la compréhension de mécanismes anatomiques qui soutiendraient certaines formes d'autisme. Il faut rester encore aujourd'hui très, très prudent et essayer de caractériser en fait plutôt des dysfonctionnements anatomiques qui seraient liés à certains types de dimensions, en particulier les dysfonctionnements des comportements sociaux.
Alors l'autisme, souffrance de l'interaction sociale, pour faire un peu large, quoi, je veux dire bien sûr, avec différentes variétés. Et vous entendez, chers auditeurs, sans doute parler de l'Asperger, qui est une forme d'autisme sans retard mental et un repli sur soi par le manque de communication. Et donc vous travaillez dans ce domaine, et il y a des approches donc microbiote et cerveau. Hein, c'est-à-dire essayer de, on en a parlé tout à l'heure, mais je le redis, c'est-à-dire cette peut-être possibilité de modification du microbiote qui est dans le tube digestif et qui pourrait intervenir pour diminuer les inflammations responsables. Aussi des traitements antibiotiques, hein, avec des traitements au long cours pendant plusieurs mois qui sont testés. Il y a d'autres choses, les modifications du taux de chlore, la stimulation aussi par électrode, on parlera peut-être un petit peu. Enfin, tout ça pour dire que il y a, en dehors de la prise en compte et de l'écoute, et surtout des familles qui en ont besoin, il y a pour ces maladies des recherches qui se font, qui sont, on va dire, assez précises. Et je rappelle donc que vous avez, dans ce débat qui a soulevé un peu, et qui continue à soulever plusieurs approches, ou en tous les cas plusieurs volontés d'approche, vous avez, vous, Marion Le Boyer, travaillé sur la génétique et permis de détecter un certain nombre de complexes de gènes qui seraient plus favorables à cette vulnérabilité.
Alors effectivement, dans les années 2000, on a démontré avec Thomas Bourgeron à l'Institut Pasteur, on a été parmi les premiers à identifier des mutations de gènes impliqués dans la mise en place de l'appareil synaptique. Depuis, on a identifié beaucoup d'autres gènes de cette voie. Mais surtout, on est en train d'identifier des sous-groupes de nouveaux spécifiques de personnes avec autisme. Vous évoquiez à l'instant la flore digestive. Donc, par exemple, on sait aujourd'hui que entre 30 et 70% des personnes avec autisme souffrent de troubles digestifs extrêmement invalidants, qui sont très probablement associés à des anomalies de la flore intestinale, qui elles-mêmes entraînent probablement la production de nouveau de ces auto-anticorps qu'on est en train d'identifier, et qui seraient là aussi, mais c'est des études qui sont en cours, pourraient être résolues ou améliorées par la prise d'un certain nombre de compléments alimentaires qui pour le moment font l'objet d'études. Il ne faut pas aller trop vite dans l'affirmation de ces données.
France Culture, matière à penser, René Friedman.
Ne préviens pas, ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive. La gueule en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille. Au creux des reins. Le mal de vivre, le mal de vivre, qu'il faut bien vivre, vaille que vivre, on peut le mettre en bandoulière ou comme comme un bijou à la main, comme une fleur en boutonnière, ou juste à la pointe du sein. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient. Le mal de vivre, le mal de vivre, qu'il faut bien vivre, vaille que vivre, qu'on soit de Rome ou d'Amérique, qu'on soit de Londres ou de Pékin, qu'on soit d'Égypte ou bien d'Afrique, ou de la porte Saint-Martin. On fait tous la même prière, on fait tous le même chemin, qu'il est long quand on doit le faire, avec son mal au creux des reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons plus les entendre, on ne peut pas, on n'en peut plus. Alors seul dans le silence d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y pense, à ceux qui n'en sont pas revenus. Du mal de vivre, leur mal de vivre, qu'ils devaient vivre, vaille que vivre.
Voilà, cette chanson est passionnante, elle est prenante par sa voix, mais surtout par son contenu, je dirais, qui renvoie d'ailleurs à la thématique que nous abordons avec Marion Le Boyer et Pierre-Michel Lorca, qui viennent de publier chez Fayard Psychiatrie, l'état d'urgence, donc la différence entre la tristesse et la dépression. Voilà, c'était dans la chanson de Barbara, et ça rejoint quelque part les thématiques que nous abordons, et surtout la recherche qui se fait en neurobiologie, essayer de comprendre un petit peu par l'imagerie, par des dosages biologiques et par la génétique, ce qui peut favoriser l'émergence de maladies qui, comme nous l'avons vu tout à l'heure, peuvent conduire à des choses graves comme le suicide, puisque 10 000 suicides par an, 200 000 tentatives, enfin tout ça c'est quand même le pain quotidien des psychiatres, et les psychiatres ne sont pas bien équipés pour prendre à bras le corps ce genre de maladie tel que vous le décrivez, tel que se sont manifestés d'abord plusieurs mouvements de grève ou de position, par exemple grève de la faim dans différents établissements psychiatriques, le collectif des perchés, parce que le personnel est monté sur les toits pour se manifester, psychose dans un autre cause, C-A-U-S-E, dans un autre établissement. Il y a une réaction importante du personnel infirmier et des médecins psychiatriques. Pourtant, on pensait que l'organisation de la psychiatrie en secteur, qui avait été proposée il y a longtemps, en 60, était une chose qui permettait de cadrer et d'associer. Et en fait, en vous lisant, et on va vous écouter, Pierre-Michel Lorca en particulier, on est un peu frappé par un peu le melting pot de tous les psys, hein, d'abord, de toute la façon d'aborder la psy qui n'est pas très codifiée, et la difficulté pour les gens de trouver là où on peut faire le diagnostic, qui fait qu'ils vont faire un appel, très souvent, et c'est normal, aux médecins généralistes, lesquels s'arrêtent là et prescrivent beaucoup d'antidépresseurs comme façon un peu de boucher le trou et puis de laisser venir, au lieu d'avoir une offre de, encore une fois, de détermination, de diagnostic et de possibilité de traiter plus précisément. Donc le système psychiatrique a vécu en France ?
Non, le système psychiatrique était un système en France et un système très sophistiqué, assez très bien pensé justement au début des années 60 par rapport à cette notion de sectorisation, mais qui montre ses limites avec l'évolution. Alors deux évolutions concomitantes. D'un côté, l'évolution de la connaissance psychiatrique, de plus caractériser les patients, de plus définir les choses, et aussi de l'évolution de la population, de la démographie et des modalités de vie des gens. Et pourquoi il a vécu ? Parce que il est en difficulté à l'heure actuelle parce que, en fait, les moyens tels qu'ils sont organisés ne permettent pas de répondre à l'ensemble des besoins. Et pour l'exemple que vous donnez, qui est un exemple extrêmement important, c'est effectivement les médecins de première ligne, les médecins généralistes sont souvent confrontés à des troubles psychiatriques. Mais l'hôpital psychiatrique et les services de psychiatrie, et nous sommes responsables de services de psychiatrie tant Marion que moi-même, donc en fait nous sommes confrontés à une vision relativement hospitalo-centrée avec une articulation qui est pas bonne de notre côté, comme de l'autre côté des médecins généralistes, pour permettre quand les collègues de première ligne voient des patients, les aider à repérer, leur donner une réponse rapide pour articuler les choses avec eux, de manière à répondre rapidement, de manière à ce que le hiatus qui existe entre, d'un côté, un médecin généraliste qui peut être confronté à avoir la perception que quelque chose ne va pas, et dans un deuxième temps, qu'il puisse référer à des soins spécialisés, ben ce hiatus est tel qu'il ne l'utilise pas. Donc effectivement, ils se débrouillent, les médecins généralistes, comme ils peuvent. En plus, avec la problématique de la démographie médicale, ben il y a des endroits où il n'y a pas de psychiatres. Les psychiatres sont comme les autres disciplines, sont à Paris, dans les grandes métropoles, et puis ils sont peu dans les zones moins peuplées. Et donc, en fait, cette difficulté-là a fait que la psychiatrie s'est repliée sur elle-même, sur un fonctionnement très hospitalo-centré, premièrement. Et puis, deuxièmement, il faut bien le dire aussi, c'est que ça a été une variable d'ajustement assez importante, puisqu'en fait, il y a eu une réduction des moyens assez drastique de la psychiatrie, qui n'ont pas été compensées par une réorganisation du dispositif. Et une réorganisation du dispositif, c'est-à-dire les moyens soient mis autrement. Ils ont été simplement enlevés et pas redéployés. Et ça, c'est vraiment une constatation qui a été faite, pas simplement par nous, par de multiples rapports qui ont été demandés par le gouvernement et qui conduisent à cette situation où les personnels sont réduit à faire la grève de la faim pour avoir des moyens pour travailler, ce qui est quand même incroyable, et à prendre des mesures comme ça qui témoignent d'une souffrance extrême et donc une incapacité à soigner correctement les gens.
Alors, je sais que le gouvernement a en fin d'année dégagé quand même 50 millions. Évidemment, c'est jamais assez, pour cela. Mais peut-être la question, comme vous l'avez abordé, Pierre-Michel Lorca, c'est qu'il y a un nombre de patients qui augmente. Une des préoccupations quand même dans ce domaine qui font que d'abord il y a des populations de précarité qui ont augmenté, donc on a plus de SDF, on a beaucoup de prisonniers, on a beaucoup de migrants, ce sont des populations vulnérables à ce genre de situation. On a aussi une préoccupation aux différents âges de la vie, il y a le problème des enfants, il y a le problème des ados dont on parlait tout à l'heure avec les suicides, et puis il y a aussi les personnes âgées qui sont de plus en plus nombreuses. Donc on a d'un côté une augmentation du nombre de patients, de l'autre côté, comme vous dites, un nombre de psychiatres qui diminue, particulièrement dans certains secteurs comme la pédopsychiatrie, qui est vraiment en déshérence là. Mais, et pourtant, on est en France avec un nombre de psychiatres par habitant plus élevé que dans beaucoup de pays d'Europe.
Oui, c'est tout le paradoxe. Et en fait, ça revient véritablement à ce qu'on peut évoquer, c'est-à-dire un système qui est riche, qui a été bien pensé à intenter, mais qui aujourd'hui maintenant, il y a de multiples gens qui ont des initiatives de soins, mais qui n'est pas assez coordonné. Et il y a vraiment un problème d'harmonisation et de coordination. Et je pense que c'est vraiment de... Tout à l'heure, vous le disiez, quand on voit la psychiatrie, on a tendance à reculer. Et on fait cette analogie dans notre livre par rapport au cancer. Il y a 30 ans, le cancer, c'était à peu près la même chose. Des soins qui étaient éparpillés, des professionnels qui, chacun travaillait d'une manière variable dans son coin, une recherche qui n'était pas coordonnée, donc un manque de pilotage qui a été considérablement modifié par le plan cancer, une volonté politique. Et il s'agit de mettre tout cela en musique. Et la psychiatrie, aujourd'hui, souffre probablement principalement de l'incapacité à avoir une volonté politique de remettre en musique. Donc bien sûr les moyens sont importants, il y a quand même un manque de moyens, mais il y a un manque de coordination et de véritablement de penser globalement toutes les problématiques que vous évoquez. Je veux dire une fois de plus, il y a plein d'endroits, il y a des dispositifs par exemple pour face à la précarité, mais il faut les articuler avec le reste des dispositifs. Et en fait, c'est souvent des dispositifs qui sont surajoutés les uns aux autres avec des mauvaises articulations, tout simplement parce qu'ils ont été rajoutés au fil des années et sans avoir une réflexion un petit peu globale. Donc ce problème de coordination est vraiment à l'heure actuelle nous au cœur de nos préoccupations et je pense au cœur du constat qu'on a fait dans ce livre, qui est vraiment un élément où Des initiatives existent, des moyens existent, on a besoin certainement de plus de moyens, mais on a véritablement besoin d'y voir un peu plus clair.
Et on a d'ailleurs, et vous faites des interviews de différentes associations hein, qui se sont constituées, qui essayent de participer dans leur domaine, mais effectivement on a le sentiment un peu d'un puzzle, quoi. Je veux dire, de gens qui sont pas forcément reliés. C'est important bien sûr d'avoir les patients eux-mêmes qui ont la volonté de participer à leur sauvetage, j'ai envie de dire, mais aussi aux associations qui existent, mais on a vraiment le sentiment que c'est un peu éclaté. Alors, est-ce qu'une fondation comme Fondamentale, que vous présidez, Marion Le Boyer, est un des éléments de la restructuration ou du lien entre toutes ces approches?
Alors
d'abord, qu'est-ce que c'est d'abord?
C'est pas tout à fait la mission de la Fondation Fondamentale, qui est une fondation de coopération scientifique qui a été créée il y a maintenant plus de 10 ans par le ministère de la Recherche et le ministère de la Santé à l'issue d'un.
Mais là, il y avait déjà une réunion quand même, scientifique certes, mais une réunion des moyens, ou une coordination des moyens.
Il y avait des moyens apportés par l'État pour créer une structure privée, qui est donc cette fondation, qui s'appelle Fondation Fondamentale, que je dirige, je n'en suis pas le président, et qui s'est donné 4 missions, en accord donc avec les conventions qui ont été passées par l'État. Qui est un, d'améliorer la prévention et le dépistage, et pour ça nous avons créé et nous coordonnons un réseau de 43 centres experts sur l'ensemble du territoire, qui sont des plateformes de diagnostic et de recherche. Deuxièmement, pour stimuler et soutenir la recherche, aujourd'hui la recherche en psychiatrie ne reçoit que 2 à 4% du budget total de la recherche biomédicale. Ce qui est dérisoire par rapport à l'enjeu qui est, comme on l'a rappelé aujourd'hui, sociétal, mais aussi économique. Et troisièmement, pour faire de l'information et pour diffuser les bonnes pratiques, pour diffuser des informations sur les recherches en cours.
Est-ce que, à l'époque que nous vivons avec ce grand débat démocratique, où la santé n'était pas mise à l'ordre du jour, mais elle le devient progressivement dans différentes réunions, de plus en plus, est-ce que c'est pas le moment d'envisager des états généraux de la psychiatrie, enfin quelque chose comme ça, qui serait un peu un plan psychiatrique, comme il y a eu justement des différents plans. Alors il y a le plan Alzheimer, le plan cancer, enfin tout le monde connaît. D'ailleurs justement, c'est bien parce qu'on les connaît, alors que le plan psychiatrique, on le connaît pas parce qu'il y a votre livre là qui sort, mais il faudrait peut-être, et vous avez 25 propositions à la fin du livre.
Effectivement, ça fait partie des éléments qui nous paraissent importants à défendre, c'est-à-dire que des mesures sont annoncées pour la psychiatrie. Dans le programme Ma Santé 2022 qui a été présenté, il y a une partie sur la psychiatrie, mais une fois de plus, on reste sur un certain nombre de mesures tout à fait louables, c'est important de le souligner, mais probablement un déficit dans la coordination et dans cette planification globale. Et c'est ça que nous appelons de nos voeux. Je veux dire, l'important du livre qu'on a fait, c'est d'essayer de faire un état des lieux. Nous, avec comme vous le disiez, d'autres professionnels, des associations, des patients, mais aussi de pas rester sur simplement une plainte, hein, mais de dire, essayons de proposer des choses. Et effectivement, cette plateforme, elle est importante. Alors, très récemment, c'était jeudi dernier au cours du grand débat, le président de la République a dit que la psychiatrie restait un domaine dans lequel qui avait été sous-estimé, enfin en tout cas insuffisamment soutenu, et qu'il avait demandé à ce que quelque chose se fasse et qu'il annoncerait pour l'automne une grande initiative. Donc savoir,
il va lire le livre.
Peut-être va-t-il lire le livre, ça sera déjà une première initiative, et après il en dira quelque chose. Je ne sais pas, mais on peut dire quand même que c'est important, puisque c'était à l'occasion d'un débat qui était mené à Bordeaux, et c'est une dépêche de l'AFP où on voit qu'il s'est fait écho de cela. Donc ça veut dire certainement que c'est plutôt rassurant de penser que à l'occasion du débat, ce sujet est mis sur la table, et que peut-être l'aspect de coordination, l'aspect de réunir un peu les choses va être pris en compte.
Alors, vous évoquez aussi dans ce livre un point, j'ai envie de dire, douloureux. C'est les hospitalisations de personnes, il y en a près de 100 000, sans consentement, qui a fait, qui est assez fréquent, peut-être trop fréquent, enfin c'est un des thèmes là. Pas d'alternative, souvent, sauf cette hospitalisation, avec cette phrase, mais c'est pour ton bien qu'il faut être, et je décide pour toi. Alors il y a même l'intervention d'Adeline Hazan, qui est contrôleuse des lieux de détention générale, de privation de la liberté plus exactement. Donc il y a une préoccupation, et comment est-ce que vous voyez ce point?
Bah, pour la psychiatrie, c'est vraiment un élément important, puisqu'en fait, on sait que certaines maladies psychiatriques, et c'est un dispositif qui existe alors en France et dans de nombreux pays, où les maladies psychiatriques empêchent d'avoir donné un consentement aux soins et nécessitent qu'on prive les gens de liberté. Il y a eu une évolution de la loi en 2011 qui était très importante, puisqu'en fait, ça permet l'introduction d'un juge des libertés qui peut évaluer justement la qualité, je veux dire dans lesquelles est faite cette privation de liberté, de manière à ce que ça soit pas abusif. Mais ça reste quelque chose qui, pour le coup, est forcément... Alors là, on revient à une problématique de moyens. C'est-à-dire que pour priver quelqu'un de liberté dans des conditions qui sont des conditions décentes, il n'y a pas de secret. Je veux dire, il faut des moyens et des moyens humains. Pour pouvoir priver quelqu'un de liberté, le protéger et le soigner, ce qui est vraiment une situation extrêmement complexe, où à un moment donné, on dit à quelqu'un, effectivement, c'est pour ton bien, on le dit, on le pense, pour éviter des dérives, qui peuvent être les dérives, comme l'a été évoqué, d'utilisation abusive de la contention, de l'isolement, on a besoin de moyens humains, puisque il n'y a véritablement que l'interaction humaine et les moyens humains avec des gens formés, qui sont rompus à la capacité de gérer des gens qu'on prive de liberté sans leur faire de mal, sans les mettre en danger, en les protégeant d'eux-mêmes, ça demande véritablement des moyens particuliers. Et tout ce qui est souligné par justement le travail de l'équipe du contrôleur général des lieux de privation de liberté est essentiel parce qu'elle met l'accent là-dessus et par rapport auquel on doit véritablement, dans une société, la France au XXIe siècle, c'est un enjeu important, comme dans les prisons, je veux dire, quand on prive les gens de liberté, on doit le faire de manière décente et humaine.
Vous avez dans vos 25 propositions, tous les deux dans ce livre, on peut pas les citer toutes, mais une phare, j'ai envie de dire, Marion Le Boyer.
Alors la première proposition de ces 25 propositions, qui reprend tout ce qu'on vient d'illustrer dans ce débat, c'est vraiment la nécessité aujourd'hui d'avoir une agence interministérielle pour la santé mentale, un petit peu à l'instar de ce qui s'est fait pour le cancer avec l'INCa autour des années 90, parce que réellement, on a besoin aujourd'hui qu'il y ait une vision nouvelle de la psychiatrie, une meilleure coordination des acteurs, une homogénéisation des pratiques de soins, une meilleure information du grand public, et puis un soutien à la recherche. Et pour ça, on a besoin d'un pilote, ou d'une structure qui pilote de manière interministérielle pour repenser l'ensemble de l'organisation de la psychiatrie.
On va vous solliciter, je le sens, parce qu'il y a vraiment un besoin réel, aussi bien du soin que de la recherche. On n'a pas beaucoup parlé, parce que c'était pas le cœur du sujet, du médico-social, qui intervient aussi dans ce côté environnemental et puis de prise en charge de façon importante et complexe. C'est mettre, coordonner tous les efforts, je dirais, des uns des autres, pour vaincre la maladie mentale, en tous les cas, la soulager. C'est ça l'objectif et merci de votre participation. Voilà, vous étiez sur France Culture, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin, émission qui a été rendue possible grâce à la participation de Catherine Donnet, de Sandrine Chaperon, de Dany Journaud, de Joséphine Lampréa et de Claude Niort. Nous avons abordé Psychiatrie, l'état d'urgence, publié chez Fayard, avec leurs deux auteurs, Marion Le Boyer, Pierre-Michel Lorca, que je vous conseille de lire calmement, parce que c'est vraiment très complet, mais c'est très instructif. Vous pourrez retrouver toutes ces informations dans nos émissions de la semaine sur le site internet franceculture.fr et les réécouter autant que vous le souhaitez.